Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemet.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité lance le débat jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons des mesures draconiennes pour enrayer l'épidémie d'Ebola et notamment les restrictions de circulation. Alors qu'on approche des 1200 morts, des régions sont en quarantaine, les frontières se ferment, des compagnies aériennes ne desservent plus certains pays, des visas sont refusés pour le pèlerinage de la Mecque. Les pays visés sont bien sûr la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone où l'épidémie est la plus forte. Tout cela a des conséquences bien sûr sur la vie quotidienne, sur l'économie. Ces décisions vous semblent-elles efficaces ou exagérées? Quelles répercussions dans votre quotidien? Vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous êtes en France. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, première partie consacrée exclusivement à l'Irak avec un premier auditeur, Qatar Sidi. Bonjour.
Alors bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Djigeni, dans le sud de la Mauritanie, et vous aviez donc une première question sur la percée récente de l'État islamique en Irak.
En effet. Ma première question, le gouvernement chiite de Nouri al-Maliki mène une politique défavorable à la communauté sunnite. Alors ma question, est-ce qu'il y a des Iraniens sunnites qui soutiennent le mouvement de l'État islamique? Si oui, pour quelle durée?
Des Irakiens sunnites, donc qui soutiendraient l'État islamique. Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Myriam Benrad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Irak et du monde arabe, chercheuse associée aux séries Sciences Po. C'est vrai que il y a eu cette crise politique, doublée d'une crise sécuritaire, au sommet de l'État irakien. Rappelons-le, lundi 11 août, le président Fouad Massoum avait chargé Haïdar al-Abadi de former un nouveau gouvernement. Nouri al-Maliki, qui lui était au pouvoir depuis 8 ans, voulait un autre mandat. Pour lui, cette décision violait la Constitution. Puis finalement, le 15 août dernier, il a cédé le pouvoir. Nouri al-Maliki, donc chiite, qui sont majoritaires en Irak, est-ce qu'il était défavorable aux sunnites et en quoi sa politique était vraiment défavorable pour cette communauté?
C'est une question très intéressante qui d'ailleurs remonte en réalité plus loin que Nouri al-Maliki, parce que les sunnites ont été dès 2003, dès la chute du régime de Saddam Hussein, mis en marge du processus politique de la transition irakienne. Alors ces mêmes sunnites depuis l'époque ottomane étaient très représentés dans les institutions, dans l'armée. Il faut rappeler que les Américains aussi ont démantelé cette armée irakienne qui avait été la première institution mise en place dans le pays par les Britanniques au début des années 20. Ils ont dissous les administrations. Donc on a effectivement beaucoup de sunnites qui se sont retrouvés laissés pour compte, qui ont très vite nourri un ressentiment important à l'égard des Américains et aussi à l'égard de leurs partenaires qui étaient pour la majorité d'anciens opposants chiites et kurdes. Et cette aliénation sunnite, elle est devenue un trait constant de la transition irakienne. Elle s'est traduite évidemment par le soulèvement armé qu'ont organisé un certain nombre de ces sunnites contre l'armée américaine, et puis ensuite qui s'est redirigé vers le nouveau gouvernement et ses symboles, avec un certain nombre de djihadistes radicaux qui, on le sait, ont mené une série d'attentats très sanglants contre les populations chiites, et on le voit aujourd'hui contre les minorités chrétiennes, yézidis, et plus largement les populations civiles qui sont vraiment soumises à la terreur.
Pardon, Myriam Medra, je vous ai coupé, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vraiment, la communauté sunnite soutient l'État islamique ou c'est quelque chose de très minoritaire?
Alors, je vais vous répondre. Donc là, j'en viens à Nouri al-Maliki. Nouri al-Maliki, dans ce contexte, qui avait promis la réconciliation nationale en 2006 et qui avait en quelque sorte promis de ramener les sunnites à la table, n'a fait que les maintenir dans la marginalité et radicaliser leur position. Alors pourquoi? Parce qu'à partir de 2012, il y a eu un certain nombre de manifestations populaires contre le gouvernement qui réclamait des réformes, ce à quoi Maliki a répondu par la répression militaire. Il a envoyé l'armée dans un certain nombre de régions pour écraser les sunnites. Et donc, c'est dans ce contexte que l'État islamique a radicalisé les rangs d'une partie de cette contestation et que les sunnites finalement se sont dit « Eh bien, pourquoi aller combattre pour Bagdad alors qu'on est réprimé finalement par ce gouvernement qui a été mis en place depuis 2003 ?» Donc il y a une forme de passivité à l'égard des djihadistes. En revanche, Et là, je réponds à votre question. Les sunnites ne soutiennent pas majoritairement l'État islamique et on le voit d'ores et déjà, face à la terreur qui est semée par les djihadistes, il y a un certain nombre d'hommes organisés en groupe d'autodéfense et un certain nombre de tribus qui ont décidé de prendre les armes justement pour les déloger. Ce qu'on avait déjà observé en 2007, lorsque certaines tribus sunnites d'Al-Anbar, qui est la grande province à l'ouest de l'Irak qui est sunnite, s'étaient alliées aux Américains justement contre ces djihadistes de l'État islamique. Donc non, les sunnites sont très divisés eux-mêmes et je pense que enfin, votre question est aussi intéressante parce que mon avis c'est que au-delà des Peshmerga, la vraie résistance aux djihadistes, elle viendra à mon avis des sunnites modérés et de ces provinces que je viens de citer.
Ouais, notamment à Al-Anbar, ouais, on voit les tribus qui se soulèvent. Qatar Sidi, vous aviez une autre question concernant la situation en Irak.
Ben oui, la deuxième question. D'accord, ma deuxième question. Le général Abdouri, ancien proche de Saddam Hussein, préfère parler de lui en dirigeant les troupes qui combattent aux côtés des combattants de l'État islamique. Alors, qui est cet Abdouri et quel rôle joue-t-il dans le mouvement islamique, de l'État islamique ?
Myriam Benrad, le général Al-Douri, c'est un ancien proche, un haut dignitaire du régime de Saddam Hussein et qui était recherché par l'armée américaine et n'avait jamais été capturé, c'est ça ?
Oui, alors Douri, c'est une figure assez assez importante. Effectivement, il a été, il faut le dire, un des artisans du coup d'État, du putsch bassiste de 1968, qui, je le rappelle, a amené donc les bassistes au pouvoir une deuxième fois en Irak, suite à quoi Saddam Hussein a progressé dans les échelons de l'appareil d'État pour ensuite s'imposer à la fin des années 70. Douri donc était à la tête du commandement de ce qu'on appelait le Conseil de commandement de la Révolution, qui était l'organe central du régime bassiste. Et puis après, alors il a été impliqué dans un certain nombre aussi hein, d'opérations du régime contre les Kurdes en 88 lors de la fameuse opération d'Al-Anfal, les bombardements chimiques contre les populations kurdes. Il a aussi été impliqué dans la répression de l'intifada chiite de 1991, qui avait suivi la guerre du Golfe. Bon, donc c'est quand même quelqu'un qui a du sang sur les mains, il faut quand même le rappeler. Et il a été traqué après la chute du régime de Saddam Hussein par les troupes américaines. Alors à plusieurs reprises, on a dit qu'il était mort et puis il réapparaissait régulièrement dans des communiqués. Il a pris la tête officiellement du parti basse dans la clandestinité puisque ce parti s'est réorganisé après sa dissolution dans la clandestinité. Il a participé aussi à la mise en place d'un certain nombre, enfin à la constitution d'un certain nombre de groupes insurgés pour justement lutter contre la présence américaine. Et il a pris la tête de ce qu'on appelle l'armée des Naqshbandi, qui est une armée enfin qui est dérivée d'un ordre soufi et qui a effectivement des liens un peu obscurs avec l'État islamique. Mais en revanche, dire quand même qu'il y a eu, si vous voulez, une fusion entre les deux groupes, entre les Naqshbandi et l'État islamique, c'est un peu, à mon avis, faut prendre des précautions parce qu'il y a eu quand même des combats fratricides et c'est un peu le cas de tous les groupes insurgés qu'on a en Irak. Par ailleurs, bon, on a certains, les Naqshbandi ne sont pas aussi, si vous voulez, ne se sont pas rendus coupables d'exactions aussi graves que l'État islamique, mais il y a effectivement eu une convergence de vues lorsque les djihadistes ont lancé leur offensive sur Mossoul début juin. Et il y a quand même, on le sait, des relations entre ces deux groupes. Voilà donc un peu comment se positionne Douri, qui est dans une logique en fait de restauration, lui, de ce qui précédait, encore une fois, la chute de Saddam Hussein, enfin d'un retour des bassistes aux commandes en Irak. Voilà, un peu le personnage.
Merci beaucoup, Myriam Benrad. Restez avec nous, beaucoup de questions sur l'Irak. On salue Qatar Sidi, qui nous appelait du sud de la Mauritanie. L'auditeur suivant, c'est John qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Sébastien Némé.
Vous êtes à Helsinki, en Finlande, et vous aviez également une question sur le nouveau Premier ministre irakien. On vous écoute.
Ok, merci. Ok, en fait, depuis la prise des villes irakiennes, dont Mossoul a des emprises importantes d'Irak, par les djihadistes, l'Irak était secoué par une autre crise qui était cette fois-ci politique et qui a conduit même à la destitution de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, qui a désisté avant de finalement jeter l'éponge la semaine dernière. Alors, à ce propos, j'ai des questions concernant le nouveau Premier ministre. La première, qui est Haïdar al-Abadi, le nouveau Premier ministre? Quelles sont ses propositions? Est-il à mesure de réussir là où Nouri al-Maliki avait échoué? Bien sûr, oui. Quelle est sa marge de manœuvre?
Meria Benrad, Haïdar al-Abadi, c'est un peu comme Nouri al-Maliki à la base, c'est un opposant de longue date de Saddam Hussein qui était exilé à l'étranger, c'est ça?
Oui, alors il y a un profil finalement très similaire. Donc al-Abadi était lui aussi effectivement dans l'opposition chiite. Avant donc son exil à Londres, il est ingénieur de formation, et avant son exil à Londres, il a milité dans les rangs du parti de l'appel islamique, le parti d'Awa, qui est le parti aussi de Nouri al-Maliki. Donc ce sont des hommes qui se connaissent, hein, qui se connaissent de longue date. Donc le profil est plus ou moins similaire. Mais je pense que, si vous voulez, l'enjeu de cette nomination, c'était surtout une autre figure, d'imposer une autre figure que celle d'Al-Maliki, puisque Maliki, on l'avait vu, avait réussi au cours des dernières années, et notamment depuis 2010, à s'attirer l'opposition d'un certain nombre, voire d'une majorité de forces politiques en Irak, qu'il s'agisse des Kurdes, des sunnites, ou aussi d'une partie importante de la communauté chiite, qui le décriait, qui dénonçait finalement sa dérive autoritaire. Il faut quand même préciser que le leader chiite Muqtada al-Sadr, qui est un des grands ténors de la politique chiite en Irak, avait lui-même qualifié Maliki de nouveau Saddam Hussein. Donc il y a eu quand même des accusations graves aussi du côté chiite. Et plus récemment, le grand ayatollah Sistani lui-même avait, dans une référence claire à Maliki, indiqué qu'il n'était pas souhaitable que Maliki remporte un troisième mandat. Donc je pense que l'enjeu de la nomination d'Al-Abadi, c'était surtout de se débarrasser de Maliki, qui n'était plus capable, à mon avis, d'engager un quelconque dialogue, ni avec les Kurdes, ni avec les sunnites. Donc il fallait un homme qui soit moins marqué et qui puisse relancer ce processus de dialogue à l'échelle de l'Irak, dans un contexte d'urgence, puisqu'on le voit, l'État islamique continue sa progression territoriale, continue quotidiennement ses exactions. Donc le but, c'était de faire en sorte que le processus politique puisse reprendre. Alors en plus, cette nomination a été, on l'a vu, soutenue par les États-Unis. Elle est aussi soutenue largement par l'Iran, qui a très vite compris aussi que Maliki n'était plus l'homme de la situation. Donc voilà. Alors al-Abadi, maintenant, a face à lui une tâche titanesque, comme je l'ai dit, la lutte contre l'État islamique, qui va prendre des mois, voire des années, il ne faut pas se leurrer, c'est un groupe très organisé, très puissant. Et puis en arrière-fond, évidemment, la relance du processus politique, de la réconciliation nationale, et plus largement de la reconstruction, parce que l'Irak se trouve dans un état de délabrement absolument choquant, malgré le fait que le pays a repris la production de pétrole depuis plusieurs années. On a une population qui vit dans des conditions absolument déplorables, et tout cela nourrit évidemment aussi la radicalisation et pousse de nombreux hommes dans les rangs de l'État islamique. Donc il faut aussi quand même voir les choses, je pense, de manière plus systémique. C'est un nouveau Premier ministre qui aura une tâche énorme, et pas seulement, encore une fois, celle de la lutte contre l'État islamique, mais vraiment celle de remettre à niveau, de remettre debout un pays qui est quand même dans une situation, encore une fois, de chaos et qui s'est complètement effondré depuis la chute du régime de Saddam Hussein.
Merci beaucoup, Myria Benrad. Merci à John, que l'on salue depuis Helsinki, en Finlande. 339-693-693-70. Une nouvelle question sur l'Irak avec Adama, qui est à Bamako, au Mali. Bonjour, Adama.
Bonjour, chers auditeurs.
Vous voulez nous poser des questions concernant l'État islamique?
Bien sûr. En fait, je voudrais savoir quels sont les moyens en hommes et en matériel militaire de l'État islamique. Comment l'État islamique se procure-t-il ses armes?
Meria Benrad, l'État islamique, cette conquête éclair s'est faite avec des moyens quand même assez importants. De quoi dispose le mouvement?
C'est un mouvement qui, c'est dur de d'estimer le nombre d'hommes. On se trouve à peu près dans une fourchette entre 7000 et 10 000 hommes sur le terrain. Mais ce sont des hommes très entraînés.
Qui venaient d'ailleurs beaucoup de Syrie pour certains, qui étaient dans la guerre civile syrienne et qui se sont aguerris là-bas.
Oui, tout à fait. En revanche, il faut quand même rappeler que l'Irak, c'est la base de ce groupe, puisque l'État islamique d'Irak, originellement, a été proclamé en Irak en 2006. Donc le leadership du groupe, c'est un leadership irakien. Ce sont les anciens insurgés, les anciens djihadistes qui ont combattu les Américains pendant les années 2000, pendant l'occupation. D'ailleurs, à ce propos, Abu Moussab al-Zarqawi, qui était l'émir jordanien du groupe à l'origine, avait très tôt souhaité que se substitue à la génération des djihadistes étrangers une génération irakienne pour justement porter un projet politique pour les sunnites. Et donc c'est bien pour cela que l'État islamique a été proclamé quelques mois après le décès de Zarqawi dans un raid américain. Je le rappelle, en octobre 2006. Ensuite, ce groupe s'est exporté vers la Syrie, et là, on le voit, c'est donc réimporté vers l'Irak pour justement lancer cette offensive fulgurante. Aujourd'hui, ces combattants ont sous leur coupe un territoire continu de la Syrie vers l'Irak. Et on le voit, ils commencent aussi à déstabiliser le Liban et à tourner les yeux vers le Proche-Orient. Et puis aussi, il faut le dire, vers le Golfe, puisqu'il y a des références aussi faites aux pays du Golfe qui sont finalement eux aussi considérés comme des pays mécréants, puisque collaborant avec l'Occident. Alors au niveau des armements, eh bien c'est très clair, c'est un groupe à l'origine qui a reçu des soutiens divers, généralement de sponsors salafistes, à l'échelle du monde arabe, plus particulièrement venant des pays du Golfe qui soutiennent l'idéologie du groupe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un groupe aujourd'hui qui est autosuffisant parce qu'il contrôle la contrebande de pétrole, il contrôle un certain nombre de trafics, donc il est très riche. C'est d'ailleurs le groupe djihadiste le plus riche. Donc
il prélève d'ailleurs l'impôt, hein, la Jebaya, si je me trompe pas dans la prononciation, impôt qui date du califat.
La jizya, qui est l'impôt imposé dans la tradition aux non-musulmans par le calife pour leur assurer sa protection. Donc ça, c'est parce qu'ils sont dans une logique de restauration du califat, donc ils reprennent les usages historiques, tout en les déformant et tout en... Il faut quand même le rappeler, hein, tout en... Ils se réclament de textes, mais on le voit, c'est quand même un groupe d'assassins, hein, pour utiliser des termes simples, hein, qui procèdent à des exactions au nom de textes religieux qui sont absolument inacceptables. Donc ça, il faut quand même bien le dire, parce que c'est leur interprétation des textes qui est une interprétation inacceptable et qui donne lieu à ces barbaries. Alors, pour finir sur les armes, il y a des trafics d'armes entre la Syrie et l'Irak. Et comme ce groupe aujourd'hui a des moyens donc financiers propres, les combattants de l'État islamique peuvent assez facilement se procurer des armes. Et par ailleurs, dernière précision, ils ont récupéré les armes de l'armée irakienne lorsqu'elle a déserté à Mossoul en juin dernier.
Et ils avaient également prélevé de l'argent dans les banques, je veux dire, dans leur conquête territoriale au fur et à mesure. Si je me trompe pas, ils vidaient les caisses bancaires.
Oui, alors il y a ce fameux épisode de la banque centrale de Mossoul qui effectivement a été attaqué. Et dont un certain nombre de réserves auraient été dérobées par les djihadistes. Alors depuis, il y a eu des rapports contradictoires. Bon, c'est très dur de savoir ce qui s'est passé à ce niveau-là. En revanche, il y a très clairement une fortune, hein, qui est à l'actif des djihadistes. Encore une fois, à travers essentiellement la contrebande de pétrole en Syrie et en Irak et un certain nombre d'autres trafics. Alors, quand je parle de trafic, il y a effectivement le racket à travers cet impôt que vous citiez. Il y a aussi un autre trafic qui est moins connu mais qui est très juteux, c'est le trafic des antiquités, notamment des antiquités mésopotamiennes en Irak, qui sont aussi un trafic qui est aussi aux mains de l'État islamique dans une large mesure. Au fil des années, eh bien, toutes ces pratiques illicites ont permis à l'État islamique, comme j'ai dit, de s'imposer finalement comme étant le groupe le plus riche, le groupe djihadiste le plus riche au monde, en faisant de l'ombre très clairement à Al-Qaïda centrale, qui est finalement un peu ringardisé si on compare la force qui est aujourd'hui celle de l'État islamique.
Beaucoup de moyens, ouais, de l'État islamique. Restez avec nous, Myriam Benrad. Il nous restera un auditeur à écouter qui aura une question sur l'Irak juste après le journal. Et ensuite, ce sera notre débat sur Ebola, les mesures draconiennes, notamment de circulation pour limiter la propagation de l'épidémie. À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.